L'Atelier des médias.
Chaque semaine, dans l'Atelier des médias, nous tentons de vous présenter les grandes tendances de notre monde en termes de médias et de nouvelles technologies. Data, algorithmes, identité numérique, jeux pair à pair, villes intelligentes, téléphones intelligents. J'ai découvert ces objets, ces concepts en même temps que vous à l'antenne. Je me suis exalté pour les réseaux sociaux, les blogs, les services en tout genre. Je me suis inquiété des traces, de la surveillance. J'ai souffert de l'infobésité, de l'omniprésence du mail, du téléphone. Petit à petit, l'excitation, la curiosité ont cédé le pas. Le désenchantement et l'alarme ont commencé à prendre le dessus. Où nous mènent ces nouvelles réalités? L'Internet, les mégadonnées, les géants à 2 milliards d'utilisateurs. Quel est leur sens profond? Sommes-nous en train de nous libérer ou au contraire de faciliter une nouvelle forme de totalitarisme? Est-on en train de construire un monde nouveau ou de détruire ce qu'il reste de celui que nos ancêtres nous ont légué? Je sais que cette forme peut choquer, paraître emphatique ou excessive, mais je sais aussi que jamais dans l'histoire, l'humanité n'a été si consciente du péril. Chacun d'entre nous, qu'il soit journaliste, ouvrier, homme d'affaires, agriculteur, étudiant, chômeur, qu'il ou elle vive à Paris, à Douala, à Marrakech, à Sydney ou à Tokyo, chacun d'entre nous se demande où tout cela nous mène. Pour notre invité du jour, le philosophe Bernard Stiegler, la réponse est simple. Si rien ne change, nous allons vers le chaos et le néant. Nous sommes avec lui pendant une heure aujourd'hui pour une émission spéciale.
L'Atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon de Creuse.
Et vous.
Le 21e siècle va être le siècle de la fin de l'emploi. Avec l'automation, on dit en français l'automatisation numérique, l'emploi, c'est fini. Et donc le problème n'est pas de savoir comment on va résorber le chômage. S'il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus de chômage. Le problème n'est plus le chômage. Le problème est le développement du savoir et des capacités dans une société où il n'y a plus besoin d'emploi. Et je crois que ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle.
Bonjour Bernard Stiegler.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et vous consacrez une grande partie de votre travail aux enjeux liés au numérique. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation car vous êtes un homme très occupé. Vous dirigez l'IRI, l'Institut de Recherche et d'Innovation lié au Centre Georges Pompidou à Paris. Vous êtes l'initiateur et le président de l'association Ars Industrialis qui réfléchit activement aux enjeux de la technologie de l'esprit. Vous êtes membre du Conseil National du Numérique, un organe consultatif qui a fait preuve de courage dans ses prises de position ces derniers mois concernant notamment la loi renseignement. Enfin, vous êtes en train d'écrire un essai en au moins 2 volumes intitulé « La société automatique ». Le premier est paru il y a quelques mois aux éditions Fayard. Il a pour titre « L'avenir du travail ». On peut peut-être commencer par expliquer ce que c'est que la société automatique.
Alors, la société automatique, c'est ce qui relève de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, les smart cities, les villes dites intelligentes, ou les smartphones, autrement dit les ordinateurs de poche qui sont aussi des téléphones, les réseaux sociaux à 2 milliards de membres, et d'une façon plus générale, ce qu'on appelle la data economy. Je crois que, en ce moment, depuis 2-3 ans, une maturation d'un processus qui a commencé, en fait, il y a 22 ans, avec l'ouverture du World Wide Web à la population planétaire dans son entier.
L'invention du web en 1993.
Voilà, c'est ça. Disons, l'ouverture à tous les publics, qui a fait qu'un processus qui avait commencé 20 ans ou 30 ans plus tôt avec ce qu'on a appelé l'informatisation de la société à l'époque, mais qui était cantonné au secteur de la recherche, de la production, disons, des domaines professionnels, est devenu finalement, grâce au web, une activité quotidienne de tout un chacun. Maintenant, il y a peu de gens finalement qui n'ont pas une connexion, d'une manière ou d'une autre, en tout cas dans les pays où on n'est pas totalement privé d'électricité, de réseau, etc. Alors, cette technologie-là, qui à partir donc de 1993 est devenue accessible à tout le monde et qui aujourd'hui couvre, je crois qu'il y a 2,5 milliards de smartphones aujourd'hui sur la planète, ce qui est absolument considérable. C'est un tiers de la population planétaire.
Et encore, même plus, puisqu'un smartphone peut être utilisé par plusieurs personnes dans une famille,
bien entendu,
etc.
Bien entendu, c'est vraiment énorme. Dans ce contexte-là, donc, s'est développé ce qu'on appelle la data economy, le fait que de plus en plus de valeur économique est produite par le fait que les gens, en se servant de leur smartphone, de leur ordinateur, de tous les équipements numériques, produisent ce qu'on appelle donc des data, des données, des traces en fait de leur activité, Certains le font de manière tout à fait volontaire, c'est-à-dire en créant un blog, en créant une page web, ou en indexant, par exemple, en donnant une valeur à un film ou à une page Facebook, en donnant un like, etc. D'autres le font sans même s'en apercevoir, à travers ce qu'on appelle les cookies, qui sont en fait des mouchards qui sont sur les appareils numériques et qui tracent, comme on dit, l'activité de l'utilisateur, parfois sans qu'il le sache du tout. Quoi qu'il en soit, tout cela a produit une grande activité dont on parle maintenant sous le nom de Big Data.
Les mégadonnées dans la traduction française.
Voilà, dans la traduction française, exactement. Et qui est en train de se combiner avec le développement, par ailleurs, de la robotique. Je prends le mot robotique en un sens très large. Par exemple, l'automobile dite autonome que Google est en train de développer, mais pas seulement Google, Mercedes également, en fait.
Tesla,
bien sûr. Il y a énormément maintenant d'acteurs, pratiquement tous les acteurs de l'automobile sont en train de se mettre là-dessus. Vous avez dû entendre dire, ou l'avez peut-être même dit dans votre émission, que dans le Nevada, maintenant, il y a des camions sans chauffeur qui circulent aux États-Unis.
Et Elon Musk, qui est donc PDG de Tesla, a prophétisé, je ne sais pas si c'est le bon terme, que d'ici une vingtaine, une trentaine d'années, on pourrait même interdire aux humains de conduire parce que les robots sont plus performants dans ce domaine.
Et il y a 6 semaines, je crois, je n'ai pas pu, ça m'a été rapporté, mais par quelqu'un en qui j'ai une confiance absolue, donc je suis sûr que c'est vrai, il y a eu une compétition de pilotes de course dont une automobile était conduite par un robot, elle a gagné la course à 380 km/h. Nous sommes en train de vivre cela. Et par ailleurs se développent les smart cities, donc l'automatisation des territoires, le traitement des flux automatisés. Tout ça est en train de s'intégrer. Pourquoi ? Parce que la technologie numérique est une technologie de compatibilisation. C'est-à-dire qu'elle permet de rendre compatibles toutes sortes de choses différentes. Un frigo avec une automobile, avec un système de recettes de cuisine en ligne. Tout ça s'intègre. Avec des normes communes. Vous savez que ce qui est l'architecture qui est en dessous du web, c'est ce qu'on appelle l'Internet. L'Internet, comme son nom l'indique, c'est un réseau de réseaux qui est fondé sur un protocole qui s'appelle TCP/IP. Et ce protocole rend compatible toutes sortes de réseaux différents, pourvu qu'ils aient adopté le protocole. Le numérique, c'est en fait une technologie qui permet d'intégrer toutes sortes d'automatismes. Non seulement des automatismes technologiques, de robots ou d'algorithmes, par exemple de big data, mais aussi nos automatismes, car nous sommes pleins d'automatismes. Un être vivant, d'abord, c'est un ensemble d'automatismes. Une cellule, et un être vivant est composé de cellules, c'est une séquence d'automatismes. Donc, en tant qu'être vivant, nous sommes déjà bourrés d'automatismes. En tant qu'être vivant doté d'un système nerveux, nous avons des automatismes, par ailleurs, qui sont réflexes, c'est-à-dire des comportements, par exemple, instinctifs chez les animaux. Chez les êtres humains pulsionnels, voilà, ce qui est un petit peu différent. Ensuite, nous avons des automatismes personnels, c'est-à-dire que nous avons des tics, par exemple. Nous avons l'habitude de dire des choses liées à notre histoire, etc., qui se répètent sans arrêt, ce qui constitue notre personnalité, d'une certaine manière, mais ce sont des automatismes. Après, nous avons des automatismes aussi collectifs.
De foule.
Alors, d'abord, pas forcément de foule, avant de parler des foules de société. En France, par exemple, quand on rencontre quelqu'un, en principe, on dit bonjour, en principe, on tend la main. Voilà. Au Japon, en principe, on dit bonjour, mais on ne tend jamais la main. Car tendre la main, c'est un peu violent pour un Japonais. Et puis, chaque pays, chaque culture a ses automatismes. Aujourd'hui, ces automatismes sont connectés avec d'autres automatismes. Par exemple, les automatismes que l'on voit dans les usines depuis le 19e siècle, qui au 20e siècle, avec le taylorisme, se sont énormément développés, par exemple le travail à la chaîne, qui a produit des automates mécaniques auxquels les hommes doivent se soumettre en devenant eux-mêmes des automates presque mécaniques. Voilà. C'est la destruction du travail humain qui est remplacée par l'esclavage à la chaîne, par exemple. Ça s'est développé surtout au début du XXe siècle avec la révolution taylorienne. Mais avec le numérique, nous sommes en train de voir se développer ces processus d'automatisation à une échelle beaucoup plus importante et dans des configurations beaucoup plus complexes aussi.
D'où le titre de votre livre, ou en tout cas de cette série de livres, La société automatique. Le premier volume est consacré à l'avenir du travail et vous avez choisi d'introduire ce livre en évoquant deux dates clés, le 23 juin 2008 et le 23 octobre 2008. On peut commencer avec le 23 juin. À cette date-là, Chris Anderson, qui était alors rédacteur en chef du magazine Wired, publie un article intitulé « La fin de la théorie, le déluge de données rend la méthode scientifique obsolète ». Il y analyse le modèle d'affaires de Google et explique que ses services, les services de Google, notamment le moteur de recherche de Google, sont réalisés sans aucune référence aux théories du langage.
Oui, en effet. Et alors, il y a les services donc du moteur de recherche et les services, c'est encore plus surprenant, de traduction.
Qui marche pas toujours très bien.
Qui marche pas toujours très bien, mais qui marche quand même plus ou moins bien. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que dit le directeur du service de la recherche de Google, qui par exemple parle de cela. Il dit nous faisons de la traduction en chinois, mais personne ne parle chinois ici. Et d'ailleurs, il n'y a pas de linguiste. Et nous ne nous intéressons absolument pas à la linguistique. Tout ce que nous faisons. Je parle pour le patron de la direction de la recherche chez Google, en fait, est basé exclusivement sur ce qu'on appelle aujourd'hui le data scientism, la science des données, qui est en fait des mathématiques appliquées, des mathématiques essentiellement probabilitaires.
Concrètement, pour que nos auditeurs comprennent, en accumulant des données et des informations, et en traitant ces données, sans nécessairement avoir à comprendre comment ça marche, pourquoi ça marche, etc. En traitant ces données, on va pouvoir anticiper, prévoir, répondre à des questions. C'est le principe du moteur de recherche de Google. Et on n'a pas besoin de comprendre pourquoi, comment ça marche, parce que les données nous donnent des réponses. C'est ça?
Oui, c'est cela. Et alors, c'est ce qu'on appelle donc des big data, qui permettent, ça c'est très important, de comprendre que ce sont des technologies de logiciels, en fait, hein, d'algorithmes et de logiciels, qui relèvent de ce qu'on appelle dans le langage scientifique le calcul intensif, et qui permettent de traiter de très 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 grandes quantités de données, presque à la vitesse de la lumière, à 200 millions de mètres par seconde dans les cas les plus optimisés. Je signale ce point pour bien faire comprendre à nos auditeurs que lorsqu'ils interagissent, par exemple, avec un moteur de recherche, ou avec Amazon, ou avec un réseau social, et qu'il renseigne des données, comme on dit. C'est-à-dire qu'il rentre des données. Par exemple, une requête sur un mot pour rechercher des sites sur Internet à travers Google, ou bien l'apport d'informations, de data sur le réseau Facebook ou ailleurs. Il constate que, par exemple, quand vous êtes en train de taper une requête, si vous faites des fautes d'orthographe, le système vous propose des corrections automatiques. Et comment se peut-il qu'il puisse vous corriger à cette vitesse-là? Eh bien, c'est très important de bien comprendre que vous, quand vous tapez sur votre clavier d'un ordinateur, l'information circule à 60 mètres par seconde à peu près sur vos nerfs. C'est-à-dire entre votre néocortex et le clavier de votre ordinateur. Vous mettez à peu près un 1/60 seconde. Mais l'information sur un réseau à très haut débit en fibre optique circule à 200 millions de mètres par seconde. Donc elle va 4 millions de fois plus vite que vous. Et elle est capable, en plus, de corréler ce que vous faites, d'une part avec tous les gens qui sont en train de travailler au même moment avec le même opérateur, et en plus de corréler ça avec votre profil, les profils des autres, de vous affilier à des groupes, et donc de vous précéder. Vous êtes en train de faire quelque chose, vous aviez l'intention de chercher quelque chose, et en fait, le système a réagi beaucoup plus vite que vous, comme par miracle. Et il vous fait finalement changer souvent votre trajectoire. Et pourquoi est-ce qu'il vous fait changer votre trajectoire? Pour mille raisons. Mais la raison principale, c'est qu'au bout du compte, il va vous faire aller vers un attracteur, ce qu'on appelle, dans la théorie de ces systèmes-là, des attracteurs, c'est-à-dire ce qui vous attire vers quelque chose, qui est l'optimisation du stock d'Amazon, par exemple, pour vous faire finalement acheter ce qu'il a intérêt à vous vendre, c'est-à-dire ce qu'il a en stock, et pas ce qu'il n'a pas en stock, par exemple. Ça, ce sont des systèmes d'optimisation de la vente qui ont une efficacité absolument incroyable, qui fonctionnent à l'échelle planétaire, et qui tirent des conséquences à partir de vos traces antérieures, c'est-à-dire de la mémoire que vous avez laissée de vos propres comportements, qui anticipent ce que vous pourriez vouloir faire dans la suite en fonction de modèles qui sont produits par toutes sortes de gens. C'est pour ça qu'on appelle ça des systèmes corrélationnistes, parce qu'ils font des corrélations mais à une extrêmement grande vitesse. Et le problème que cela pose, c'est que progressivement, eh bien, ce que vous faites, ça n'est plus ce que vous vouliez faire. C'est ce que le système a envie de vous faire faire. Alors évidemment, toutes sortes de cas existent, et quand on sait se débrouiller avec ça et qu'on a une certaine habitude, on peut essayer de ne pas tomber trop dans les panneaux, même si ça devient de plus en plus difficile. Vous parliez donc de deux dates.
Venons-en à la deuxième date. Cette deuxième date, c'est le 23 octobre 2008. Ce jour-là, Alan Greenspan, qui était donc l'ancien président de la Réserve fédérale aux États-Unis, est auditionné sur la crise financière et il explique en gros que ce qui a causé cette crise, c'est une mauvaise utilisation par les robots, par les algorithmes de données incomplètes et qu'en gros, l'humain, en fait, et l'analyste et tout le savoir financier n'a pas grand-chose à voir avec ce qui s'est passé.
Alors oui, c'est un petit peu, évidemment, on peut dire qu'il se défausse de ses responsabilités sur un état de fait technologique, et ça c'est très clair qu'il s'en défausse. Mais en même temps, il faut prendre au sérieux la défense qu'il soutient. Si on interprète ce qu'il dit, il dit, bon, finalement nous n'avons plus de théorie économique, nous faisons fonctionner des automates, nous ne savons plus comment ils fonctionnent. Alors premièrement ça, travailler avec quelque chose dont on ne sait plus comment ça fonctionne, c'est très bien expliqué en 1948 par Karl Marx, ça s'appelle la prolétarisation. C'est-à-dire que celui qui travaille avec un système dont il ne sait plus comment il marche, c'est-à-dire qu'il n'a pas le savoir du système, c'est le système qui détient le savoir de celui qui avait le savoir autrefois, il s'en est emparé. C'est la prolétarisation. Donc premièrement, Alan Greenspan est devenu un prolétaire. C'est important de rappeler que Karl Marx et Engels disaient tous les gens qui travaillent avec ces systèmes deviendront des prolétaires, pas simplement les ouvriers. Ça commencera par les ouvriers, puis ça deviendra les cadres, ensuite les ingénieurs, et puis finalement tous ceux qui sont impliqués dedans. Ils avaient raison. Deuxièmement, Greenspan dit, mais maintenant je m'aperçois que ça ne pouvait pas marcher. Alors il dit d'abord, je me suis appuyé sur des prix Nobel d'économie qui disaient que ça pourrait marcher. Pourquoi est-ce que ces prix Nobel disaient cela? C'est parce que dans le néolibéralisme, on dit que le comportement de n'importe quel acheteur est rationnel et qu'il suffit de comparer tous les comportements les uns avec les autres, que quand on les somme, ça produit une rationalité. Et bien ce que dit Alan Greenspan, c'est que non, ça n'est pas rationnel. Ça, c'est très important. Il sanctionne finalement une théorie économique qui était la sienne en réalité. Troisièmement, il dit qu'on a besoin d'une théorie parce que ces systèmes, il ne le dit pas comme ça, ça c'est mon interprétation, sont producteurs de ce qu'on appelle en physique de l'entropie. L'entropie étant...
C'est le désordre en gros, c'est ça ou...
C'est, on appelait ça le désordre depuis le XXe siècle. Au XIXe siècle, c'est la dissipation de l'énergie et l'égalisation de tous les différentiels. Donc il y a depuis 1824, d'abord c'est un ingénieur, Sadi Carnot, qui empiriquement dit cela, ensuite c'est repris par un physicien allemand, Clausius, en 1865, qui en fait une théorie qui change totalement la conception de l'univers, c'est très important, et ça va être confirmé en 1929 par Hubble, un astrophysicien, qui va observer que l'univers en expansion est en fait, va vers le désordre, c'est-à-dire vers l'indifférenciation. Et on peut dire, c'est une façon de reformuler scientifiquement quelque chose que dit la Bible. Dans la Genèse, troisième livre, tout redeviendra poussière, c'est-à-dire tout deviendra désordre, indifférenciation. En 1944, un physicien aussi très important, Schrödinger, va interpréter d'un point de vue de physicien ce que c'est que le vivant. Et il va finir par dire finalement, le vivant, c'est ce qui lutte contre l'entropie. La vie, c'est ce qui lutte contre la mort. Et la mort, c'est l'entropie. Quand vous mourrez, votre cadavre se décompose, il redevient de la poussière. Ce que dit Greenspan, c'est que aujourd'hui l'automatisation produit de l'entropie à très haute dose. Alors l'entropie, ça, au départ c'est une théorie physique, ensuite une théorie biologique, ce qu'on appelle la négentropie, c'est-à-dire le vivant c'est ce qui lutte contre l'entropie, et enfin ça devient ensuite la théorie de l'information. C'est-à-dire que Shannon, le grand théoricien américain de l'information, décrit sa théorie de l'information comme une théorie de l'entropie informationnelle. Là, ce qui est très important, c'est de bien comprendre que ce qui fait l'intelligence, le savoir, la culture, c'est de la différenciation. Vous n'êtes pas indifférent quand vous, par exemple, vous êtes calé en football, ce qui est un savoir, c'est un savoir-faire, le football. Si vous êtes calé en football et que vous avez apprécié le jeu d'un footballeur, vous n'êtes pas indifférent à ce qu'il produit. Ce que dit Greenspan, c'est que le système automatique est en train d'indifférencier tout et est en train de produire de l'entropie à très haute dose. Ce que je dis moi-même à partir de là, c'est que premièrement, ce qui permet de reproduire de la négentropie dans l'information contre l'entropie que décrit Alan Greenspan, ce sont les savoirs. Et que, dès lors, la grande question qui se pose à nous, et je reviens au tout début de notre conversation, s'il est vrai que nous sommes en train de vivre maintenant un nouveau stade de l'automatisation, c'est est-ce que nous allons produire de l'entropie à très haute dose dans tous les domaines, c'est-à-dire nous détruire ? C'est le sujet de la COP21 qui va se dérouler à Paris fin novembre. La COP21 qui va nous parler du climat, en fait le climat c'est une des dimensions de l'entropie. Le dérèglement climatique qui crée un désordre océanique, atmosphérique, géographique, etc., climatologique, est en fait un phénomène de chaos anthropique. Mais ça n'est qu'un aspect. Par exemple, les conséquences démographiques, les grandes migrations qui vont être engendrées, c'est une autre dimension de ce chaos. Et si nous, les êtres humains aujourd'hui, nous n'arrivons pas à remettre dans notre production industrielle, mais aussi culturelle, intellectuelle, beaucoup de négentropie, nous allons à la destruction de l'espèce humaine.
Courte pause dans l'atelier, restez à l'écoute.
L'atelier des médias.
Atelier des médias, nous sommes cette semaine avec le philosophe Bernard Stiegler. Il vient de publier « L'avenir du travail », premier tome d'une série qu'il consacre à la société automatique.
Is your job about to get automated? 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 Yes.
L'atelier des médias.
Bill Gates confirmed.
La web émission participative.
Robots will be taking your jobs.
RFI.
Software substitution for drivers or waiters or nurses or even
Bernard Stiegler, on a donc évoqué ces deux dates clés de 2008 qui ont montré, ou en tout cas laissé imaginer, que le monde pouvait se passer de théories. Et peut-être deuxième idée, le monde peut se passer de spécialistes, peut se passer d'humains. Alors c'est valable pour les financiers qui sont donc les mathématiques appliquées, les remplacent pour savoir comment il faut investir, etc. C'est valable pour les linguistes concernant Google, mais ça c'est valable aussi pour toute une série de métiers qui peuvent se faire remplacer, y compris des métiers manuels, quotidiens, etc., qui sont quotidiennement aujourd'hui remplacés par la robotisation. Et c'est pour ça que vous avez choisi de réfléchir à cette thématique et d'appeler le premier tome de votre ouvrage « L'avenir du travail ».
Oui, alors en effet, je crois que je m'appuie sur des données là de très très nombreuses études et aussi d'ailleurs sur une déclaration de Bill Gates qui a fait le 13 mars 2014 une conférence à Washington, l'Institut de l'entreprise, où il a dit dans les 20 ans qui viennent, 50% des emplois seront remplacés par ce qu'il appelle la software substitution, c'est-à-dire par des algorithmes. En fait, il reprenait des chiffres d'une étude d'Oxford qui a montré que 47% des emplois américains sont menacés de disparition à échéance de 20 ans. Et ces chiffres ont été repris sur l'Europe, c'est 50% à peu près pour l'Europe.
20 ans, c'est-à-dire demain, c'est-à-dire
c'est très bientôt.
50% des emplois existants aujourd'hui sont menacés
seront automatisés. Et pas simplement les travaux manuels, hein, les médecins, les juristes, en fait, beaucoup d'activités intellectuelles aussi. Beaucoup d'activités.
Ça peut arriver aussi vite que ça? Il y a des projections qui disent qu'en 2025, c'est-à-dire dans 10 ans, en France, on va avoir des taux de chômage entre 25 et 30%.
C'est ce que dit Roland Berger, c'est que 3 millions d'emplois vont être détruits dans les 10 ans qui viennent en France. Donc effectivement, ça va nous porter le chômage à plus de 25%. Dans la Seine-Saint-Denis, je pense que ça va poser d'assez gros problèmes, parce que le chômage est déjà très élevé chez les jeunes, et là, ça risque de devenir quasiment impossibilité de trouver du travail.
Seine-Saint-Denis, donc un département de banlieue parisienne.
Au nord de Paris, qui est un département qui accumule beaucoup, disons, de difficultés, mais qui a aussi beaucoup de potentiel. Et je le dis parce que je travaille avec la Seine-Saint-Denis sur ces questions en ce moment. Mais quoi qu'il en soit, ce que nous soutenons, nous, alors là, je parle pour Ars Industrialis, l'association que je préside, nous soutenons que la question qui se pose à travers ces évolutions qui sont, il y a presque unanimité aujourd'hui sur le problème. Il n'y a pas unanimité sur les délais et sur les conséquences concrètes, sur l'interprétation de ces conséquences, mais il y a unanimité sur la tendance là-dessus. Il n'y a plus personne de sérieux qui remette en cause cette tendance. Et ce que nous disons à Ars Industrialis, c'est que si c'est le cas, et si, imaginons par exemple qu'en effet, il y a une perte de 50% d'emplois d'ici à 20 ans.
Inéluctable.
Oui.
Parce qu'on ne peut pas lutter contre cette tendance, en gros.
Oui, on ne peut pas. Les robots vont donc produire avec un coût beaucoup plus bas.
Une efficacité plus grande dans beaucoup de domaines.
Mais il n'y aura plus personne pour acheter. S'il n'y a pas une redistribution de pouvoir d'achat d'une manière ou d'une autre, les gens ne pourront plus acheter.
Parce que, il faut l'expliquer, jusqu'à maintenant, en tout cas au 19e et au 20e siècle, l'automatisation qui a toujours existé, hein, les machines qui remplaçaient des humains, a été d'une certaine manière redistribuée par l'emploi, par le pouvoir d'achat, etc. Et donc l'économie fonctionnait. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'amélioration des techniques ne redistribue pas parce qu'on ne crée pas d'emploi, parce qu'elle ne crée pas d'emploi.
Alors il faut distinguer trois périodes, en fait. Il y a une période au 19e siècle où il y a une automatisation relativement limitée, mais quand même très importante, qui a permis de faire des gains de productivité très sensibles en Europe occidentale, pour l'essentiel, à cette époque-là. C'était essentiellement Angleterre, Allemagne et France. Dans ces pays-là, des gains de productivité ont permis d'augmenter énormément le confort, mais uniquement de la bourgeoisie. Il n'y avait pas de redistribution, ni vers les paysans, ni vers les prolétaires. Et eux, au contraire, les prolétaires vivaient dans une misère noire, ils avaient régressé au niveau de leur niveau de vie, si je puis dire. À partir du XXe siècle, les choses ont un peu changé, parce qu'une nouvelle organisation du travail est apparue, qu'on appelle le taylorisme, fondée sur une automatisation beaucoup plus poussée. Et à partir de là, qu'est-ce qui a été possible? Eh bien, il a été possible de réaliser ce que Henry Ford, le fondateur de l'entreprise Ford, s'était fixé comme objectif, à savoir produire 1 million d'automobiles par an. Il y est arrivé, assez vite en plus. Mais le problème, c'est de les vendre. Parce que si vous produisez 1 million d'automobiles par an, qui va les acheter si le pouvoir d'achat des individus n'augmente pas? À cette époque-là, l'automatisation crée du travail. Et le modèle que Ford avait en tête, c'était de dire, je vais faire tellement de bénéfices que je vais mieux, beaucoup mieux payer mes ouvriers, à tel point qu'ils vont même pouvoir acheter des voitures. Parce que je leur ferai des crédits, etc., etc.
Paris gagné.
C'est ce qui s'est passé. Mais en même temps, ça s'est passé, ça a quand même pris 30 ans pour se concrétiser. Parce que le modèle de Ford était contradictoire avec l'ensemble du modèle américain, qui était ultra-libéral à cette époque-là. Et il a fallu que, après la crise de 29, Roosevelt décide d'imposer, en fait, ce qu'on appelle le revenu social, c'est-à-dire des garanties de retraite, des garanties de salaire, des garanties d'éducation,
le
de
New
protection.
Deal, en fait,
c'est ce qu'on appelle le New Deal. Voilà. Exactement. Et qui a permis de tout à coup créer ce qu'on appelle des American Way of Life, c'est-à-dire que les gens avaient un niveau de vie extrêmement élevé aux États-Unis. À partir des années 80, quelque chose s'est passé, qui a été décidé, grosso modo, par deux personnes qui s'appellent Margaret Thatcher et Ronald Reagan, qui ont dit qu'avec la décolonisation, les unités de production allaient partir du monde occidental, de l'Europe et des États-Unis, et que finalement de nouveaux pays industriels allaient apparaître, et qu'il fallait complètement changer la structure de l'organisation du capitalisme occidental. Et à partir de là, ils ont, comme on dit, financiarisé l'économie en disant, après tout, si les usines fichent le camp, tant pis, on n'aura plus de grève, on sera plus embêté par tous ces trucs-là. L'essentiel, c'est de garder le contrôle de l'argent. Mais à ce moment-là, le capitalisme occidental est devenu spéculatif. Et donc, cette boucle de rétroaction positive qu'il y avait relativement depuis Roosevelt est devenue négative. C'est à ce moment-là qu'on a développé énormément le crédit à la consommation d'une manière totalement irresponsable, en particulier avec les subprimes, ce pourquoi les sénateurs américains interrogeaient Alan Greenspan. Et comme les modèles mathématiques des économistes ultralibéraux consistaient à dire qu'on pouvait toujours, par les mathématiques, finalement arriver à sauver le système, ce système s'est développé et en 2008, il a craqué, parce qu'il ne pouvait pas tenir, évidemment. Il était insolvable. Aujourd'hui, le système est en train de muter à nouveau, avec l'automatisation généralisée, avec une disparition de l'emploi considérable. En France, par exemple, Daniel Cohen, qui est un économiste très connu ici, c'est quasiment celui qui dirige l'économie en France, parce qu'il dirige le département d'économie de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, eh bien, il a repris la proposition que nous avons faite à Arsenus Relis, qui consiste à dire, dans 50 ans, il n'y aura pratiquement plus d'emploi.
D'emploi salarié.
Ouais. Et d'ici à 10 ans, l'emploi va chuter très très sensiblement. Dans 20 ans, peut-être la moitié des emplois auront disparu. Comment est-ce qu'on va créer un système de redistribution macroéconomique rationnel? Nous nous disons qu'on ne peut plus le faire reposer sur l'emploi puisqu'il n'y en aura plus. La redistribution ne peut plus se faire par le salaire. À partir de là, nous avons préconisé, alors, Arsenus Relis, ça fait déjà un an, l'extension de ce qu'on appelle le régime des intermittents du spectacle. Qu'est-ce que c'est qu'un intermittent en France? Un intermittent, c'est quelqu'un, c'est surtout, c'est pratiquement limité aux artistes aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a un régime d'allocation de chômage tout à fait hors norme, parce que il peut ne pas travailler pendant plusieurs mois de l'année, et pendant cette période où il n'est pas salarié et employé, il peut travailler mais pour lui-même. Par exemple, écrire sa musique, répéter, développer un rôle, une mise en scène, etc.
En gros, on ne considère pas de longues périodes de chômage pour indemniser les personnes. Il suffit qu'on travaille 10 jours dans le mois et 20 jours on ne travaille pas, on va recevoir une allocation sur les 20 jours où on n'a pas travaillé.
C'est annualisé.
C'est un régime qui a été beaucoup décrié
c'est un régime qui est
très coûteux, etc.
On dit que c'est très coûteux, c'est faux. C'est tout à fait faux. Samuel Churin a très bien montré qu'en fait, c'est un régime qui est très rationnel sur le plan économique. Quoi qu'il en soit, ce que nous disons, nous, c'est que, si je reviens à ce que nous disions dans la partie précédente de l'émission, le problème de l'économie actuelle, automatisée, c'est qu'elle produit de l'entropie.
Je sais pas comment de expliquer l'entropie, mais c'est du désordre, en gros. C'est-à-dire du néant.
De l'uniformisation, de la standardisation des comportements, des modèles, etc. Et ce désordre est extrêmement préjudiciable. C'est lui qui produit les grands désordres auxquels nous nous attendons, par exemple avec le changement climatique et beaucoup d'autres.
Le chômage.
Et là, je voudrais parler d'un économiste indien qui s'appelle Amartya Sen, qui est très important, et qui a fait une étude dans les années 70 pour rendre compte d'un fait assez étonnant, qui est que les habitants du Bangladesh ont une qualité de vie, une espérance de vie plus élevée que les habitants de Harlem. Harlem est un quartier populaire de New York, mais c'est un quartier où il y a l'eau courante, où il y a des égouts, il y a des hôpitaux, des médecins, une justice, une éducation, des écoles. Et le Bangladesh, surtout dans les années 70, c'est un pays extrêmement déshérité. C'est un des pays les plus déshérités du monde. Eh bien, qu'est-ce que constate Amartya Sen ? Les gens vivent plus longtemps, et en plus, ils vivent mieux en termes de joie de vivre, si je puis dire. Et il fait une explication, il donne une explication à ça, il fait une étude très approfondie, c'est un spécialiste de ce qu'on appelle les économies de disette. Il a eu le prix Nobel pour ces travaux-là. Il montre qu'en fait, ces gens-là n'ont pas détruit leur savoir. Ils ont maintenu leur savoir vivant d'abord, dans leur culture, ils ont maintenu leur savoir-faire, ce sont des artisans, et ils ont maintenu leur savoir spirituel, c'est-à-dire qu'ils continuent à développer une vision du monde qui n'est pas exclusivement rabattue, disons, sur la pure subsistance. Tandis qu'à Harlem, de plus en plus, le consumérisme américain a fait perdre les savoir-vivre, les savoir-faire, et aussi les savoirs intellectuels et spirituels, sauf dans certaines parties de la population grâce au jazz, ou grâce à des pratiques religieuses, etc. À partir de là, ce que nous disons, nous, c'est que, en fait, ce que Marx décrivait comme la prolétarisation qui est produite, en fait, par l'automatisation, c'est ce qui est en train de s'étendre aujourd'hui à toutes les activités, y compris celle d'Alan Greenspan, et c'est en train de produire une ruine, véritablement, des savoirs, et que l'avenir de l'économie, c'est de produire des savoirs, c'est de recommencer à produire des savoirs. Et c'est donc de développer, en fait, un nouveau rapport à l'automatisation, qui consiste à utiliser l'automatisation pour se désautomatiser. L'automatisation, ça permet de gagner du temps.
Ça, il faut expliquer, ouais.
Ça permet de gagner du temps. Donc si on dit, on a gagné énormément de temps, on n'a plus besoin de temps humain, on peut redistribuer du temps. En disant, par exemple, à des gens, voilà, vous avez 18 ans, à partir de maintenant, vous touchez un revenu de 2000 euros par mois, automatiquement.
Il y a des régions de France où on est en train de tester ces revenus minimums inconditionnels.
Ça, c'est pas un revenu minimum inconditionnel, ce que je suis en train de dire. C'est un revenu que nous appelons contributif et qui est conditionnel. C'est-à-dire qu'il est renouvelé, ce revenu, à condition que la personne, comme dans le régime des intermittents, eh bien, s'engage sur un certain nombre de choses. Par exemple, de participer à un processus éducatif ou bien de participer à une vie associative et un certain nombre d'heures par an. Y compris créer une entreprise ou participer une entreprise ou je ne sais quoi. Par exemple, dans le monde aujourd'hui de l'automatisation de la grande industrie métallurgique, il y a ce qu'on appelle les cobots, ce sont des couples robots-humains. De plus en plus, les humains vont être des gens avec grandes compétences en savoir-faire. Ce sont plus du tout des prolétaires. Ce seront des gens qui seront externes à l'entreprise, mais qui viendront travailler pour l'entreprise de manière temporaire.
On comprend avec les pistes que vous donnez qu'il faut repenser totalement nos modèles, il faut enfin redéfinir nos contrats sociaux, repenser ce qu'est le travail, arrêter de focaliser sur le chômage, etc. Ces choses-là, ça prend énormément de temps, alors que ce que vous décrivez, c'est une situation d'urgence, et pire encore, c'est une situation d'urgence qui ne dit pas son nom, parce que dans le discours qu'on entend partout, il y a très peu d'alarme. On sent le changement, on sent qu'il y a des menaces, etc., mais ça n'est pas dit comme ça.
C'est en train de changer. En ce moment même, bon, je vais vous donner le cas de Daniel Cohen qui prend... Le pape aussi a pris des positions tout à fait incroyables. Bon. Mais il y a aussi, hier soir, j'étais avec des acteurs économiques de toutes sortes d'horizons qui commencent à vraiment se mobiliser sur ces choses. Donc je pense que c'est en train de changer. La question qui se pose aujourd'hui, c'est une question très pratique. Que faire ?
Comment convaincre quelqu'un comme Jeff Bezos qui compte employer 10 000 robots dans ses,
Jeff Bezos,
dans ses entrepôts
il a déjà 10 000 robots, il compte en avoir beaucoup plus que cela. Et le modèle, c'est Foxconn, hein, c'est l'entreprise chinoise qui fabrique les smartphones Apple et les ordinateurs Apple, qui a déjà mis 10 000 robots aussi, et qui a déjà investi il y a déjà 10 mois 17 milliards de dollars dans la robotisation. Et leur but, c'est d'en fabriquer 1 million de robots et de licencier 1,5 million d'ouvriers.
Comment convaincre ces géants de redistribuer, parce qu'il va falloir trouver l'argent quelque part si on veut le redistribuer.
Il ne s'agit pas de les convaincre, il s'agit de leur imposer, bien entendu. Mais ils seront obligés de s'y plier, parce que c'est une question de rationalité économique, c'est aussi leur intérêt. Et là, la question qui se pose ici, c'est une nouvelle rationalité économique. Et par rapport à cela, nous pensons que, pratiquement parlant, il faut expérimenter. Aujourd'hui, je travaille avec un territoire au nord de Paris, dans la banlieue parisienne. Nous sommes en train de démarrer toute une opération sur un territoire de 400 000 habitants, avec des hommes politiques, de quatre partis politiques tout à fait différentes d'ailleurs. Et nous nous engageons dans un travail, et nous nous donnons 10 ans pour que ce travail devienne véritablement exemplaire et reproductible, sachant que je tiens à signaler un point, c'est que entre ce que Henry Ford a pensé en 1908 et le New Deal de 1933, il s'est passé 25 ans. Il faut aujourd'hui, c'est à peu près ce pas. Alors peut-être nous n'avons pas 25 ans devant nous, mais disons que nous
pensons. Il y a quand même une accélération.
Il y a une accélération, mais nous pensons qu'il faut nous donner une dizaine d'années pour opérer une transition progressivement, et qu'il faut travailler essentiellement à partir de la jeunesse. Parce que ce sont les jeunes qui vont être frappés par le chômage de masse, de cette automatisation. À partir de là, il faut changer complètement leur socialisation. Il faut commencer à leur donner un revenu contributif. Pour leur donner ce revenu contributif, il faut aussi leur donner des moyens de capacitation. Ce que j'appelle la capacitation, c'est ce que j'appelais tout à l'heure les savoirs. Il faut créer des systèmes pour leur donner des capacités. C'est un sujet que je connais très bien, parce que j'étais directeur de l'INA.
L'Institut National d'Audiovisuel en France.
L'Institut National d'Audiovisuel, c'est le plus gros organisme de formation audiovisuelle, et c'est aussi le plus gros organisme de formation des intermittents.
C'est un organisme d'archivage aussi.
D'archivage, mais aussi de recherche, de production audiovisuelle. Et c'est le plus gros centre de formation d'Europe dans le champ audiovisuel. Et nos, les principales troupes qui viennent se former à l'INA, ce sont des intermittents. Et ça, c'est très très important. Il faut mettre en place des organismes de capacitation ouverts à tout le monde. Et c'est ça que nous allons faire en Seine-Saint-Denis.
Mais il y a également un enjeu planétaire, parce que ce qu'ont permis ces réseaux, c'est le développement, on l'a rappelé, de géants. Amazon, Google, Facebook, Apple, etc. Et il va falloir avoir une forme de gouvernance planétaire, et elle est quand même difficile à installer. Ça fait presque un siècle qu'on essaye avec la Société des Nations, les Nations Unies, etc. Et c'est pas toujours totalement efficace. Et surtout pour des changements aussi profonds.
Bien entendu, vous avez bien raison. Je travaille beaucoup aussi avec Arsène Jury sur un concept de Marcel Mauss qui s'appelle l'internation, où il critique la Société des Nations, il essaye de la penser dans un autre registre en disant au XXe siècle, des réseaux développeront, c'est extraordinaire ce qu'il dit, c'est en 1920, des réseaux développeront qui changeront complètement le problème de la Société des Nations. Nous y sommes maintenant. Et je pense que ce qui est très important, alors c'est ne jamais oublier que oui, nous avons des géants qui n'existaient pas il y a 7 ans, mais est-ce qu'ils existeront encore dans 7 ans? Pas sûr. Tout va extrêmement vite dans ces choses-là, et maintenant, le système dans lequel nous sommes est totalement irrationnel. Maintenant, tout le monde le sait. C'est un système ultra-spéculatif qui fonctionne, je dirais, à des emballements spéculatifs très dangereux. Il va commencer à falloir le rationaliser et aussi à le diversifier. Et je pense que il est très important aujourd'hui de comprendre que la phase que nous avons traversée pendant 10 ans est une phase tout à fait exceptionnelle qui est pas soutenable. Si vous la regardez, d'abord, sur le plan énergétique, elle n'est pas soutenable. Elle est extrêmement énergétivore. Et donc, il est absolument indispensable de faire évoluer ces architectures. Ars Industrialis, c'est une association de 500 personnes. Il y a dedans de très, très bons ingénieurs spécialistes de ces questions d'architecture, par exemple. Et à l'IRI, que je dirige, nous travaillons aussi sur ce type de questions. Donc, si vous voulez, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut comprendre que l'horizon n'est pas du tout bouché, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. C'est vrai que la puissance publique française et européenne, par exemple, a l'air totalement azimutée et totalement tétanisée par ce qui se produit là. Mais il y a d'autres, d'abord sur les territoires, dont celui dont je viens de parler, il y a des gens qui s'occupent de tout cela. Les gens réfléchissent. La jeunesse est extrêmement dynamique. Et tout le monde prend conscience du caractère imposé. Même Bill Gates. Bill Gates, par exemple.
Fondateur de Microsoft.
Fondateur de Microsoft.
Et de la fondation Bill et Melinda Gates.
Voilà. Et s'est associé avec Stephen Hawking pour dénoncer l'intelligence artificielle. Donc, et ses dangers. Et le pape, etc. Donc, si vous voulez, il se passe quelque chose.
Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir repenser le monde, repenser tout ce qui fait le monde, repenser les contrats sociaux, repenser le droit aussi. Vous parlez dans le livre de l'utilisation des drones pour éliminer des entre guillemets terroristes dans le monde, c'est-à-dire de ce que vous rappelez être finalement des exécutions extrajudiciaires, etc., en utilisant la technologie, en utilisant la capacité de la technologie. Et pour faire ça, pour repenser ce monde, vous appelez au développement de ce que vous appelez les études digitales, les digital studies, et vous préférez d'ailleurs le mot digital à numérique.
Oui, parce que pourquoi digital? C'est parce que en fait, derrière la question des technologies numériques, il y a la question du statut de la technique dans la construction des savoirs et même de l'homme en général. Et par quoi est-ce que commence l'homme? Par les doigts, digits en anglais. Qu'est-ce que sont les doigts des hommes à la différence des doigts des animaux, disons? Eh bien, nos doigts fabriquent. Ils ne servent pas à la motricité, mais à la fabrication. Et cette fabrication d'objets techniques, C'est ce qui a permis à l'homme d'extérioriser sa mémoire dans des outils d'abord, ensuite dans des peintures, puis dans des livres, dans des ordinateurs aujourd'hui. Et cette extériorisation de la mémoire, c'est ce qui a rendu possible le développement foudroyant de l'être humain. Parce que finalement, l'être humain, c'est une espèce qui existe depuis très très peu de temps. À l'échelle géologique ou biologique, 3 millions d'années, c'est 3 fois rien. Et quand on voit les processus terrifiants d'ailleurs que l'homme a provoqués, hein, en tant que prédateur, c'est extrêmement grave. Maintenant, l'homme est à la croisée des chemins, il est devenu le prédateur de lui-même, pas simplement au sens où Marx disait l'homme exploite l'homme, mais au sens où il menace de détruire son propre milieu. Donc il faut qu'il reconstruise son intelligence au service d'une préservation de son avenir, et ça, je pense que en effet, maintenant, ça suppose le développement de ce que nous appelons des études digitales, c'est-à-dire une étude du rôle des techniques dans la formation des modes de vie humains sous toutes leurs formes, et en particulier les technologies numériques, celles qui fonctionnent à 200 millions de mètres par seconde, c'est-à-dire plus vite que la vitesse de l'éclair, parce qu'un éclair, ça va à 100 millions de mètres par seconde.
Le message de ce livre, c'est il faut reprendre la main, il ne faut pas croire que tout ce qui est en train d'arriver est une fatalité. Vous parlez d'un effet de sidération, c'est-à-dire que c'est vrai, hein, les choses arrivent tellement vite, du jour au lendemain ou en quelques semaines, on va adopter massivement à l'échelle planétaire des nouvelles solutions, des nouveaux services, etc. Et qu'il faut pas se laisser entraîner par cet état de sidération, qu'il faut reprendre la main, prendre du recul, réfléchir et prendre des décisions politiques.
Oui, alors ce processus de sidération relève de ce qu'on appelle aujourd'hui la disruption. Le fait que les technologies évoluent beaucoup plus vite que les structures sociales, que les structures mentales, et que du coup, on n'arrive plus à comprendre.
Qui est quelque chose de valorisé, hein, la disruption.
Qui est valorisé, mais qui devient très destructeur. Et qui, moi j'appelle ça la radicalisation. Et qui produit la radicalisation aussi au sens où on accuse, par exemple, le terrorisme d'être le fruit d'une radicalisation. Je pense que tout ça fait système, en réalité. Nous soutenons, je dis toujours nous, parce que je travaille en coopérative, moi. Et si vous voulez poursuivre tout ce qui se passe dans ces domaines, il faut travailler dans ce que nous appelons des coopératives de savoir. Sur ces questions, j'ai à peu près 200 ou 300 interlocuteurs dans le monde avec lesquels je suis en réseau, qui m'envoient des messages.
Vous servez de l'automatisation pour désautomatiser.
Oui, exactement.
Vous servez des outils pour mettre en réseau et trouver des solutions ensemble.
Parce que ces outils d'automatisation sont extrêmement utiles. Si par exemple, tout le monde admire Wikipédia, mais il faut savoir que sur Wikipédia, il y a des milliers de robots qui fonctionnent et qui rendent possible la coopération de 800 000 contributeurs volontaires permanent et de plusieurs dizaines de milliers occasionnels dont je fais partie. S'il n'y avait pas ces robots, Wikipédia ne pourrait pas fonctionner. On appelle ça des bots. Donc, si vous voulez, la question n'est pas de rejeter l'automatisation, c'est d'en faire un processus positif. C'est tout à fait possible, c'est la seule issue. C'est pour ça que ça se fera. Ou alors, nous allons vers une catastrophe. Mais je pense que les gens restent quand même relativement rationnels, même si souvent ils sont en effet sidérés, totalement désorientés par la disruption. Mais il y a de la rationalité qui se produit. Je parlais du pape tout à l'heure et j'y reviens. Le pape, c'est un État, le Vatican. Le pape, c'est un chef d'État. Et il atteint à peu près 2 milliards de personnes dans le monde. Il est en train de dispenser un discours sur ces questions, que je critique pour une partie d'ailleurs, mais qui est fondamentalement bien orienté. C'est-à-dire qu'il dit il faut se ressaisir de toutes ces questions de manière rationnelle.
Bernard Stiegler, on va se quitter sur une question qui peut paraître rhétorique. Vous êtes donc un philosophe, un penseur, un iconoclaste aussi, comme la plupart des gens qui s'intéressent aux questions numériques en France, hein. Mais vous êtes aussi un homme du siècle. Vous avez dirigé des grandes institutions, l'INA, l'IRCAM, etc. Si demain vous étiez aux manettes, si on vous disait, vous devenez donc Premier ministre, Président de la République, ministre de budget, ce que vous voulez, qu'est-ce que vous feriez? Quelles seraient vos premières décisions pour réagir contre ce monde que vous voyez arriver de manière si urgente et que beaucoup de gens ont du mal encore à percevoir, à voir?
Alors, je ne réagirai pas contre ce monde, d'abord, je me l'approprierai. Je redévelopperai la prospective à un niveau beaucoup plus important. Aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus.
La prospective, c'est-à-dire la recherche, tout simplement.
La recherche sur les processus qui sont en outre. Il y avait, en France, autrefois, hein, il y avait de très bons organes de prospective qui avaient été mis en place par le général de Gaulle.
Mystère du plan, par exemple.
Et je pense qu'il faut absolument remettre ce genre de... Ce qui ne veut pas dire qu'il faille que l'État soit le planificateur de tout, c'est pas ce que je veux dire, mais par contre, la prospective, c'est fondamental. C'est l'armée américaine qui fait la prospective aux États-Unis, c'est la puissance publique, c'est pas du tout Google. Si Google s'est développé, c'est parce que l'armée américaine a investi pendant 50 ans dans la bibliométrie, la scientométrie, etc. Et donc, il faut recommencer à développer ce genre de choses. Deuxièmement, il faut très profondément transformer l'enseignement supérieur et l'enseignement général. Et pas pour faire des MOOC et des choses comme ça, ce sont des gadgets. Par contre, moi, j'ai créé une école en ligne qui s'appelle pharmacon.fr. Je le signale sur RFI, c'est très important parce qu'il y a 1000 étudiants actuellement dans cette école. Il y a 16 nationalités différentes. Et voilà, je pense que ça peut intéresser les gens qui écoutent RFI dans le monde entier. C'est en ligne, c'est très facile d'accès. Et je pense qu'il faut développer des nouvelles façons de partager le savoir, de produire le savoir. Et troisièmement, il faut inventer une nouvelle politique territoriale. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes non pas dans la démondialisation, mais dans la reterritorialisation. Qui soit est complètement régressif et conduit à la fermeture des pays sur eux-mêmes, ce qui serait une catastrophe, mais c'est une grande tentation de l'Europe actuelle. Les extrêmes droites sont porteuses de cela. Soit on reterritorialise pour créer des réseaux de territoires. C'est ce que j'essaye de faire en ce moment. Et je pense qu'il faut généraliser ce genre de choses. Et par ailleurs, je pense qu'il faut développer un projet européen de ces technologies. Pas contre l'Amérique, pas contre les autres continents, avec eux. Mais il faut remettre de la diversité de point de vue. C'est très important. Cette technologie, le numérique est extrêmement souple, permet de faire énormément de choses. Il n'y a absolument pas une façon d'employer le numérique. Il y en a autant qu'on le veut, à la limite. Et par contre, il est très important de réinventer une civilisation européenne autour du numérique.
Merci Bernard Stiegler. La Société Automatique, tome 1, L'Avenir du Travail, est publié chez Fayard. Je signale également la parution chez Fayard et Aux Mille et Une Nuits de L'Emploi est mort, Vive le Travail, où vous proposez un entretien avec le journaliste et écrivain Ariel Kirou sur ce thème, donc toujours le travail. Plus d'infos et des liens sur le site de l'Atelier des Médias. À bientôt.
À bientôt.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des Médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 395 de l'Atelier des Médias, proposée par Marie-Catherine Beuth, Francis Pisani, Manon Mella, Mélissa Barra, Dilette Sadawi, Simon De Creuse et Ziad Malouf. Pour nous réentendre, c'est sur rfi.fr, soundcloud.com et sur toute bonne application de podcast. Si vous nous écoutez alors que vous êtes en train de courir ou de vous déplacer dans la ville, dans la campagne, vous faites bien, partagez la pratique du podcast autour de vous et n'hésitez pas à commenter notre émission sur les différents réseaux de partage audio. Salut à toutes et à tous.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais, les bonus.
Les bonus.
Ben, ça continue sur Internet.